Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors ce soir, pour m'accompagner, Pascal Essérick. Bonsoir Pascal, rédacteur en chef d'Éléments.
Bonsoir.
Alors, exceptionnellement, nous n'aurons pas Philippe Christel pour l'actualité européenne en fin d'émission et bien sûr pour commenter l'actualité russo-ukrainienne. Mais je vous avoue que sincèrement et personnellement, cela m'arrange car vu le nombre d'imbécilités entendues depuis le début de la crise dans les médias, je préfère attendre d'y voir plus clair et Philippe Christel aura largement plus d'informations et de recul sur l'événement. Mais comme nous avons quand même un peu d'humour sur Radio Courtoisie, je ne citerai qu'une phrase d'une grande spécialiste de la géopolitique, je l'ai trouvée aujourd'hui, c'est « En Ukraine, nous assistons à une colonisation, la guerre civile menace, l'impérialisme russe emporte l'entière responsabilité et c'est signé Caroline Forest ». Et oui, cela laisse sans voix. Caroline a dépassé son maître BHL. Donc vous voyez, le niveau de réflexion est haut. Il va nous falloir au moins un mois pour répondre et décrypter la nouvelle pensée de nos élites journalistiques pour en parler de la crise en Ukraine. Alors cette élite française que le monde entier nous envie, c'est le sujet de cette émission car nous avons le plaisir de recevoir Michel Maffesoli et Hélène Sroll pour leur dernier livre « Les nouveaux bien-pensants ». Bonsoir à vous et merci d'être sur Radio Courtoisie.
Bonsoir.
Michel Maffesoli, vous êtes professeur à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France, auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont Le temps des tribus à la table ronde ou plus récemment L'homme postmoderne écrit avec Brice Perrier. Hélène Sroll, vous êtes ancienne élève de l'ENA, inspectrice générale des affaires sociales honoraires, et vous avez déjà publié « L'État social ne fonctionne plus » chez Albin Michel. Alors, pour commencer, je vais commencer par un reproche, c'est votre titre, Les nouveaux bien-pensants. Car en vous lisant, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas vraiment nouveaux, que c'est plutôt la fin d'une ancienne pensée que vous décrivez.
Vous savez, on n'est jamais maître des titres. Moi, il m'a été imposé par mon éditeur, vous voyez, pour le dire simplement. Je voulais très classiquement parler de la bien-pensance en général, et on pourra en parler. Et puis, il a trouvé que c'était plus accrocheur de dire les nouveaux bien-pensants. Voilà, c'est un marchand, un éditeur. Et de fait, ça marche bien. Et peut-être que le titre n'est pas... permet que ça
marche bien. Donc, ces anciens bien pensons, ils viennent d'où?
Non. Alors, cela dit, pour moi, c'était qu'un clin d'œil qui m'a amusé à Bernanos, tout de même, puisque c'est lui qui a, en son temps, écrit des choses splendides sur les bien-pensants, pardon. Nouveaux, ils sont jamais nouveaux, c'est sûr. Moi, ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'on commence à être lassés de ce qu'il est convenu d'appeler le politiquement correct, la bien-pensance, je sais pas qu'est-ce qu'on dit, le conformisme et tout à l'avenant. Il y a toute une série d'expressions qui traduisent la même chose, c'est-à-dire le fait que, dans le fond, il y a, et c'est le cas actuellement, un décalage très fort entre ces élites dont nous sommes. Moi, je dis, l'intelligentsia, c'est ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Donc, journalistes, écrivains, universitaires, hauts fonctionnaires, et puis le peuple, voilà, c'est tout. Mais en sachant que ce décalage est quelque chose d'assez constant dans les histoires humaines, à certains moments, cela prend une forme qui devient inquiétante. Moi, je crois que nous sommes dans un de ces moments où cet écart est important. Alors voilà, nouveau, bien sûr, c'est comme il y en a nouvelle cuisine, nouveau philosophe, machin chose, peu importe, rien de nouveau sous le soleil, c'est certain. Enfin, en disant nouveau, je voulais dire par là, enfin, j'avais accepté, en acceptant ce titre, que oui, voilà, ce décalage était fort, important et lourd de conséquences.
Alors, l'une de vos principales critiques sur ces nouveaux bien-pensants ou anciens, c'est leur incapacité à penser à des solutions plurielles. C'est le mythe de la pensée unique et donc de la solution unique de ces problèmes, que ça soit sur l'immigration, le chômage, l'identité, l'insécurité. Il y a forcément une solution unique pour les problèmes du pays.
Oui, ça, c'est en effet, vous avez raison, et là-dessus, peut-être Hélène Sroll pourra plus intervenir que moi, mais ce qui est certain, c'est ce sur quoi je voulais surtout insister, ce que je viens de dire, ce décalage, c'est que dans le fond, c'est bien pensant, et après tout, le qualificatif de nouveau ne me gêne pas, avec les nuances que je viens ici de faire, reste sur une conception qui est en effet cette conception moderne. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la modernité? Si je le dis avec un terme, une expression d'Auguste Comte, c'est ce qui va reductio ad unum, ce qui va réduire tout à l'unité. Et quand Auguste Comte disait cela vers la moitié plus exactement du 19e siècle, il ne faisait que dire socialement ce que furent, dans le fond, les droits de l'homme, ce que fut l'universalisme du 18e siècle, etc. C'est-à-dire, et c'est ça fondamentalement la modernité, hein, c'est-à-dire ce qui va faire qu'il y a une seule chose. Moi je dis une application sociale du monothéisme judéo-chrétien. Voilà, c'est ça la modernité. Et donc après ça va se décliner de diverses manières. En effet, l'individu un, l'État un, les institutions une. Voyez, c'est cette réduction à l'unité, et donc il peut aboutir à ce qui est, dans le fond, cette espèce de grand fantasme de l'un. Moi, c'était le chapitre de ma thèse d'État à l'époque, dans les années 70, j'avais écrit un de ces chapitres qui s'appelait « Le fantasme de l'un ». Voilà, donc c'est quand on reste sur l'un, si vous voulez, qu'on ne comprend pas le polythéisme des valeurs, si je le dis à la manière weberienne, qu'on ne comprend pas qu'il y ait du polyculturalisme de diverses sortes, etc. Alors, de ce point de vue, gauche et droite confondues d'ailleurs, il y a encore en France cette espèce de conception de l'un, de l'unité, ce en quoi d'ailleurs la France n'est pas bien préparée, c'est un euphémisme, pour aborder la postmodernité qui justement va reposer essentiellement sur la mosaïque, sur la fragmentation, sur le fait qu'il y ait des diverses manières de penser, d'être, de s'organiser, tout à l'avenant.
Et alors le paradoxe dans cette élite, c'est qu'elle, en même temps, elle a un discours où elle prône l'ouverture au monde, la mondialisation. Quand elle parle de l'immigration, c'est une chance pour la France. Elle parle d'une société multiculturelle. Donc là-dessus, il y a idéologiquement, elle serait en phase, mais elle est persuadée qu'il faut rentrer tout ça dans un moule unique, hein, cette fameuse république une et indivisible. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Vous, qui avez Hélène Stroll, qui avait vu les ce que vous appelez les fonctionnaires hauts. On expliquera tout à l'heure ce que c'est. Dans cette élite des hauts fonctionnaires, pourquoi ils veulent à tout prix faire rentrer tout le monde dans un moule unique?
Parce que c'était le modèle sur lequel ils ont été formés, c'est le modèle sur lequel on a construit l'administration, c'est-à-dire un modèle universaliste, jacobin, centralisateur et surtout anticommunautaire. Or, par définition, une société multiculturelle et une société d'intégration, de nos jours, ne peut plus procéder par assimilation. Elle est obligée de prendre en compte des différences culturelles, mythologiques, etc., de manière à justement prendre en compte ce polythéisme des valeurs.
Alors pourquoi, oui, parce que ça c'est à chaque fois qu'on le lit, c'est pourquoi des fonctionnaires hauts et pas des hauts fonctionnaires, comme ça on aura passé la question.
Oui, c'était une manière de m'amuser. Les hauts fonctionnaires, surtout quand ils sont jeunes, ont de plus en plus une apparence de totalement modeste, donc ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont hauts fonctionnaires, et en même temps ils sont toujours extrêmement attentifs à ce qu'on les différencie bien des autres fonctionnaires, fussent-ils des fonctionnaires de catégorie A, comme on dit. Donc ce sont des A+, et en fait ce sont des hauts fonctionnaires, quoi. Et voilà, donc ça m'a amusé de dire les fonctionnaires hauts, et visiblement ça fait...
Alors votre chapitre est terrible. En fait, on s'aperçoit qu'on a affaire à des moines soldats. Vous dites qu'ils préfèrent mettre en place une mauvaise solution que pas de solution du tout. Et chez les hauts fonctionnaires, le doute n'existe pas, ou plutôt il n'a pas le droit d'exister dans sa pensée. Il doit agir.
Oui, mais ça c'est véritablement la culture dans laquelle nous avons, en tout cas les gens qui ont un certain âge, nous avons été élevés, c'est-à-dire une culture de l'explication, de la cause unique, et finalement de mieux vaut prendre une mauvaise décision que de ne pas décider. Mais ça se dit beaucoup. C'est pas seulement dans le milieu des hauts fonctionnaires qu'on le dit. Hein. On vous dit, par exemple, on vous dit, quand on sait pas quoi faire, on dit faisons un rapport. Voilà. Parce que, en fait, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre le temps de penser. Il ne faut pas attendre le temps d'écouter. Il faut faire comme si on faisait. Et comme on ne sait plus quoi faire, on fait des lois.
Oui, ça, c'est bon. Mais on va y revenir. Alors, Je dirais qu'il y a une forme de logique pour un État et que la République ait des fonctionnaires qui représentent cette idéologie. Mais Michel Belfessoli, comment expliquez-vous que les contre-pouvoirs qui ont été à une époque la presse ou les intellectuels soient devenus aujourd'hui presque les complices zélés de ce système ?
Vous savez, on peut le dire d'ailleurs d'une manière très simple, au travers d'un terme de l'ethnologie, c'est de l'endogamie. L'endogamie, ça parle entre soi, ça couche ensemble, grosso modo. Et peu à peu, c'est ainsi que les élites se sont, disons, se cooptent, se reconnaissent et restent ensemble. C'est l'entre-soi, voilà. Alors, il n'y a pas de vraie différence, quand on regarde un peu avec attention, entre le monde médiatique, le monde politique et ce qu'on appelle maintenant, ce terme est un peu, me fatigue énormément, les experts, enfin, qui étaient une autre manière de dire les universitaires ou les intellectuels, ce que l'on n'en dit plus. Voilà, vous voyez, c'est ce là que je veux dire. Hein. C'est-à-dire, dans le fond, ils partagent les mêmes valeurs. Soyons clairs, gauche et droite confondues. Hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver là, ils ne font que reproduire d'une certaine manière ce qui furent les belles et grandes idées de ce qu'est la modernité. J'insiste bien là-dessus. Hein. C'est-à-dire ce qui s'est élaboré à partir du XVIIe siècle, ce qui s'est philosophiquement fondé avec le siècle des Lumières, et ce qui s'est systématisé au XIXe siècle avec les grands systèmes sociaux. Voilà, si vous voulez, en quoi il n'y a pas de vraie différence, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont multicartes en quelque sorte. C'est quand même intéressant de voir comment nombre de ces journalistes peuvent avoir un mandat, j'en ai encore discuté aujourd'hui, un mandat politique, en même temps se piquer d'écrire des livres et tout à l'avenant. Vous voyez, c'est cette espèce d'osmose en quelque sorte qui fait qu'il y a une déconnexion entre cette élite, ces élites. Et puis le peuple, on n'ose pas employer le mot peuple parce que de suite ça fait penser au populisme. Moi, je trouve que c'est bien dommage. Le peuple, c'est quand même ce qui est le fondement même de la vie sociale. Mais il y a là actuellement une déconnexion qui est indéniable et qui est en train de s'élargir de plus en plus. Le fossé est en train de s'élargir de plus en plus.
Alors vous insistez bien sur le vocabulaire de ces élites. C'est l'idée de progrès, de modernité. Puis vous expliquez bien que cette parenthèse qui a été ouverte au moment du 19e et de la modernité, elle est en train de se refermer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que ce vocabulaire est devenu obsolète pour expliquer les problèmes et la crise que notre société...
Vous savez, moi j'ai eu quelques bons maîtres. Et parmi ceux-là, il y avait Michel Foucault qui m'a marqué, moi que j'ai lu ses livres, etc. Et qui avait une belle idée au travers de ce terme un peu comme ça gothique, qui était le terme d'épistémé, hein, c'est-à-dire dans le fond la connaissance que l'on a de soi. Et une connaissance qui s'applique, hein, montrant qu'un amour n'est tel que parce que cet amour se dit. Pareil pour l'amitié, un pays n'existe que parce qu'il y a une histoire que ce pays se raconte. Bien, mais par opposition à la théorie pure, l'épistémé, sous la plume de Foucault, c'était une théorie ou une représentation qui s'applique. Hein. Par exemple, Athènes avait une interprétation de l'épistémé du moment, c'est-à-dire la mythologie, c'est la vie athénienne. Sparte a une autre interprétation de la vie de la mythologie, c'est la vie spartiate. Voilà, donc c'est ce qu'il a appelé les mots et les choses. Hein, c'est-à-dire le va-et-vient qui existe, dans le fond, entre le fait de se dire et le fait de s'organiser. En même temps, ce que montre Foucault, et moi j'ai poursuivi, tout passe, tout casse, tout lasse. C'est-à-dire qu'une épistémée, dans le sens que je viens d'indiquer, ça fonctionne, ça marche, et puis tout d'un coup, ça se sature. Ça ne marche plus, il n'y a plus d'évidence. Hein, dans ce, comme dirait Montaigne par rapport à la Boétie, c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Cette évidence ne marche plus. Ça devient la théologie au Moyen-Âge. Pareil. Elle se fatigue, elle s'use, et puis ça va être la philosophie des temps modernes. Et dans le fond, c'est mon travail, moi, depuis longtemps d'ailleurs, et là, sous forme pamphlétaire, j'y rends attentif un peu plus, c'est que cette épistémée moderne, manière de se dire et manière s'organiser, ne fonctionne plus. Voilà, tout simplement parce que, il y a une saturation, il y a une fatigue, il y a une usure de ce grand système d'interprétation, et du coup, un délitement de la société, s'il suffit d'ouvrir les yeux, de traîner dans la rue pour s'en rendre compte, si vous voulez, voilà. Et du coup, il convient maintenant de trouver des mots. qui soit un peu comme les mots qu'a trouvé la modernité, comme les mots qu'avait trouvé le Moyen-Âge pour exister, les mots qu'avait trouvé le début de la tradition gréco-latine qui est la nôtre pour exister. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a des mots qui sont fatigués, usés. Alors, bien sûr, j'en cite un certain nombre qui deviennent incantatoires.
Quels sont ces mots fatigués?
Bon, ben moi, je pense que le mot république est un mot tel qu'il est pensé et dit, qui est un mot usé, le mot contrat social, le mot citoyen. Vous voyez, tous ces mots que l'on dit d'une manière un peu incantatoire. Si je le dis d'une manière imagée, l'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. On ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer, si je puis dire. Eh bien, je trouve frappant d'entendre les discours journalistiques, politiques et universitaires où on va avoir de l'incantation sur la République.
Le mot citoyen revient.
Le mot citoyen, le mot démocratie. Moi, j'ai vu aujourd'hui, tiens, j'ai dit, tiens, voilà ce qu'il faudrait dire. Maintenant, le mot démocratie, ça décrit un magasin de fringues. Voilà. Alors, voilà, il faudrait revenir à des choses simples, c'est-à-dire quelque chose qui
un magasin citoyen.
Il y a un truc qui s'appelle le démocratie. Je ne sais plus où je l'ai vu.
Ah, d'accord.
Non, un magasin de fringues qui s'appelle démocratie. C'est quand même pas inintéressant, si vous voulez. Et je me demande si c'est pas une chaîne, il faudra voir ça. je peux pas vérifier, mais enfin, j'ai vu ça, j'ai dit, cet après-midi, j'ai dit, tiens, ça s'amuse. Voilà, donc du coup, voilà des mots, si vous voulez, qui sont des mots usés. Et je crois que je cite dans ce livre, à moins que ce soit une chose, je m'en souviens plus, l'exemple de cet empereur chinois dont l'empire se délite, qui consulte le sage et il dit qu'est-ce qu'il faut faire. Le sage dit il faut s'arrêter et il faut trouver des mots. Voilà. Et on a comme un écho ce que dit Camus en disant il faut trouver des mots, M-O-T-S, qui guérissent les mots. Voilà. Alors nous sommes dans un moment où on fait de l'incantation, et il suffit d'une manière ad nauseam, on entend, si vous voulez, ce que j'appelle moi des Niagara d'eau tiède sur des bons sentiments de divers ordres, et du coup, il faut trouver des mots. Moi j'en proposerai.
Sachant quand même que ça ne suffit pas toujours, parce qu'il y a aussi des espèces d'escroqueries sur les mots. Quand on parle de pacte de responsabilité et qu'on veut des engagements réciproques, on parle en fait d'un contrat. C'est dans un contrat que vous avez, que vous écrivez ce que chacun donne. Dans un pacte, vous fonctionnez sur la confiance et sans avoir besoin d'expliciter l'échange. Donc parler de pacte de responsabilité à propos de ce contrat, c'est, à mon avis, c'est subvertir le mot. Ça ne le change pas vraiment.
Sur ce thème, c'est intéressant parce que moi, une de mes hypothèses de base, c'est de dire qu'en effet, le contrat social, dans ce qu'il avait de rationnel, sur la longue durée, est en train de laisser la place au pacte dans ce qu'il a d'émotionnel et d'éphémère. Mais ce que vient de dire Hélène Schroff, c'est juste, c'est-à-dire qu'il est des moments où on se rend bien compte qu'on ne peut plus faire l'économie du mot pacte qui arrive. Mais on va l'utiliser à la place du mot contrat. Voilà. C'est pas de l'escroquerie, ça veut dire que c'est un moment comme ça où les politiques qui ne sont pas très futées, sentent quand même qu'il y a dans l'air du temps autre chose que le terme contrat. Oui, mais il faut trouver d'autres mots. Moi, vous voyez, les tripodes, si je puis me permettre, modernes, c'est l'idée, encore une fois, du progrès, le progressisme, c'est la valeur travail, qui est une expression de Karl Marx, et c'est le rationalisme, qui, à partir du 7e siècle, va marquer fondamentalement le vivre ensemble social. Bon. Et on continue à rester sur ces tripodes-là, alors que, il faut trouver des métaphores. Moi, je dis, c'est plus la valeur travail, c'est l'idée de création. C'est plus simplement quelque chose qui va mettre l'accent sur le futur, c'est-à-dire le progrès, mais vivre au présent. Et là encore, c'est un élément qui n'est pas négligeable, qui a fait des belles cultures, cueillir aujourd'hui les roses de la vie. Tout le paganisme repose sur ce carpe diem, de diverses manières. Et puis, c'est plus simplement le rationalisme, c'est la prise en compte, l'émergence de l'émotionnel.
Y a un autre mot aussi qui a été utilisé, qui est quand même le socle de cette élite, c'est l'universaliste. Cette idée que tout vient de chez nous, quoi, de la France, de l'Europe, et que le monde se développe selon ce critère. Y a une anecdote dans votre livre d'une discussion que vous avez avec Jacques Attali qui est persuadé que les pays émergents se développent exactement avec les mêmes critères que le reste de l'Europe.
Non, mais ça, c'est l'immense prétention et l'immense paranoïa de ce que furent l'intelligentsia française. La modernité a été concoctée dans ce petit canton du monde qu'est l'Europe et la France. Voilà. Ensuite, il fut ces grandes valeurs furent exportées dans les cales des marchands, au bout des baïonnettes des soldats et avec la Bible des missionnaires au monde en son entier. Hein, moi, je donne un exemple. Les deux dates paradigmatiques de la fin du 19e, 1868, l'ère Meiji, hein, où l'empereur ouvre ses ports aux navires européens, fait venir les juristes prussiens et lyonnais pour faire la constitution Meiji. 1888, quand le Brésil met sur ses bannières le mot d'ordre d'Auguste Comte, ordre et progrès. Voilà, on a là le spectre, si je puis dire, de cette occidentalisation du monde, de ce qui furent concoctés dans un petit canton. C'est ça, l'universalisme. Voilà. Et il se trouve, ben voilà, qu'il y a autre chose qui est en jeu. J'ai dit polythéisme des valeurs en citant Max Weber. Polyculturalisme, peu importe. Hein, moi, je ne pense pas que l'intelligentsia soit polyculturelle actuellement. Hein, elle reste très figée sur les grandes valeurs de la modernité, très même d'une manière enfermée, quoi. Enfin, fermée véritablement sur ces valeurs-là. Alors que, de fait, il y a une fragmentation et qu'il faut penser cette fragmentation.
Le modèle, la Révolution française est le modèle même de la du monothéisme. Hein. On supprime les provinces, on supprime les corporations et on construit le modèle des départements et on lutte contre les langues régionales, contre les cultures régionales. Après, vous transposez ça au niveau du monde avec le colonialisme d'une certaine manière et vous avez la même chose.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie et nous recevons Michel Maffesoli et Hélène Straub pour leur essai Les Nouveaux Bien-Pensants. Alors, l'une des figures les plus visibles de ces nouveaux bien-pensants, c'est le journalisme. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment l'idiot utile du moment parce qu'il passe les plats de l'idéologie dominante. Mais en plus, vous expliquez qu'on lui simplifie pour être sûr qu'il répète littéralement et sans accroc. C'est-à-dire qu'on amène la communication, etc. Et vous êtes même un peu méchant, vous dites qu'on a quasiment inventé la quatrième de couverture des livres pour qu'il puisse pouvoir interroger correctement un auteur.
Ben oui, moi je le vis ces temps-ci, puisque et là je sors de tout à l'heure, j'étais à une émission où manifestement il avait pas ouvert mon livre, donc du coup mais lui il s'était même pas regardé la quatrième couverture, il avait regardé la couverture
ça, donc
il a glosé pendant un moment sur les moutons,
sur les moutons.
Voilà, c'est une manière assez simple de ne pas lire le livre. Non mais bon, il y a une paresse. Ça, c'est un problème français, hein, je tiens à préciser d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai la chance de beaucoup voyager, d'avoir des conférences, mes livres sont traduits ici ou là, et du coup, j'ai eu quand même pas mal de journalistes, j'en sais rien, moi, en Amérique latine, au Brésil, à Tokyo, à Séoul, etc., à Mexico, et je me rends compte que les journalistes sont sérieux. La France peut-être un peu moins, ouais. et va s'attacher justement à regarder uniquement le quatrième de couverture. Mais soyons clairs, c'est pas uniquement les journalistes, moi, que je veux critiquer, hein, quand même. C'est véritablement un abêtissement de la pensée qui va se retrouver aussi bien dans le monde politique que dans le monde journalistique, médiatique en général, que dans ce qu'il est convenu d'appeler les experts. C'est-à-dire que même à l'université, j'ai tout de même un chapitre.
On va y venir aussi.
Où je montre qu'il y a cet abêtissement qui est assez fort. Moi, je peux me permettre de le dire, mais j'ai du mal à discuter avec mes chers collègues, par exemple. Du mal à accrocher sur un certain nombre d'auteurs qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas lu, et tout à l'avenant. Voilà. Donc là, c'est en ce sens, si vous voulez, que il convient, je pense, de faire la critique tout de même de cette espèce d'attardissement, il faut trouver des mots, pas forcément violents comme je le fais là maintenant, mais enfin, en tout cas qui montre qu'il y a une dilution de ce qu'était la belle culture, même moderne d'ailleurs.
Alors, il y a quand même une arme que la presse, et on s'en aperçoit de mois en mois, qui c'est de dénoncer ce que, si vous appelez bien les bien-pensants, c'est la mauvaise pensée, et avec l'arme de la diabolisation, car souvent chez les journalistes, on pense qu'il y a une cause ultime, et toute différence qui pourrait être forcément un danger, et là on retrouve tout le vocabulaire du bien-pensant, un danger pour la République, les droits de l'homme, la démocratie. C'est-à-dire cette diabolisation de toute idée qui serait contraire, je veux dire, à ces nouveaux bien-pensants. Et elle est souvent ravageuse pour
oui, enfin bon, Hélène Scholl pourra en dire un mot dans un instant concernant les hauts fonctionnaires. Moi, ce qui me paraît frappant, comment le dire, c'est que Mais là-dessus, chacun a son idée obsédante. Moi, la mienne, c'est une critique du judéo-christianisme, tout de même, hein, depuis le début de ma carrière, le début de mes livres. Qu'est-ce que c'est que ce judéo-christianisme qui, par après, va devenir profane dans les pensées contemporaines? C'est le fait que, dans le fond, le mal n'a pas d'existence en soi. Il n'y a que Dieu bon. Hein, si je puis me permettre, ça vous paraît trop alambiqué, vous m'arrêterez. Mais saint Augustin, qui est pour moi le fondateur de la modernité, dit le mal n'est qu'une privatio boni, c'est-à-dire une privation du bien. Et donc on va le remplir par le bien. Donc la seule valeur, c'est le Dieu bon. Et du coup, c'est cette incapacité de penser l'ombre. De péter de travers, hein, de ne pas suivre en effet les sentiers battus qu'il est convenu de suivre, on l'a dit, sur la démocratie, sur la république.
Oui, ce que vous appelez clair obscur.
Voilà. Alors qu'il y a du clair obscur de l'existence, vous voyez, c'est-à-dire que dans cette perspective que j'ai dit depuis tout à l'heure en citant Weber, le polythéisme des valeurs, il n'y a pas que la simple clarté. Chacun a son ombre individuelle et il y a une ombre collective. Et donc je pense que la racine, hein, je fais ce long détour pour dire la vraie racine pour moi de la bien-pensance, elle est dans cette incapacité de penser l'ombre.
Hélène Sceaux.
Oui, ce qui donne d'ailleurs, ce qui cause d'ailleurs cette obsession de la purification, de l'éradication des mauvais comportements. On peut prendre un exemple très très concret, hein. Vous avez des cigarettes électroniques actuellement. Eh bien, nos décideurs vont dire ça n'est pas bien parce que les gens conservent le geste de la cigarette. Et donc, il y a quelque chose qui est mal, c'est de fumer. Et même faire semblant de fumer avec une cigarette électronique, c'est mal aussi. Et là, finalement, le mieux est toujours l'ennemi du bien.
Juste un mot, cette éradication du mal, on la retrouve dans le comportement des journalistes d'investigation. C'est curieux parce que demain plutôt, le Canard Enchaîné va publier des conversations donc volées entre Patrick Buisson et Nicolas Sarkozy, donc qui auraient été volées par Patrick Buisson, mais et dont le voleur aura été volé, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans le Canard Enchaîné. Alors, il y a une mise en abîme qui est absolument exceptionnelle. Vous n'épargnez pas les méthodes d'Edwy Plenel, etc. En fait, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur cette éradication du mal par la presse.
Oui, voilà. Oui. Non, mais en effet, on fait des critiques fortes sur, concernant Plenel, contre ce journalisme d'investigation. C'est-à-dire, c'est au-delà même du nom et au-delà même de cela, ce que cela représente, c'est cette vieille idée de l'inquisition, fondamentalement. Hein, c'est-à-dire que, alors, ça va être en effet voir les poubelles, ramasser dans les poubelles, ramasser ça et là. Et qu'en soi, l'inquisition est potentiellement dangereuse. Moi, je trouve ça effrayant. Non pas que arriver à critiquer ou à dénoncer Cahuzac, moi, je suis bien d'accord avec le phénomène de cet ordre. Mais c'est ce principe que, quand j'étais jeune, on disait on ne lutte pas contre l'aliénation avec des moyens aliéné de bord, pour ne pas le citer. Et je trouve que c'est une bonne formule, c'est-à-dire que dans le fond, il y a des moyens aliénés qui sont potentiellement dangereux, et cette idée inquisitoriale que l'on trouve dans la presse dite d'investigation, c'est dans le fond à partir de ce que, pour ce qui concerne Mediapart, cette grande mentalité, dans le fond, de flic. Trotsky, c'était un flic, un point, c'est tout. Au nom du bien qu'il avait, il pouvait massacrer les marins de Kronstadt arrêter la rébellion de Macnon en Russie. Vous voyez, donc voilà des exemples qui font que Trotsky, c'est un jour, Kostry, c'est toujours.
Alors, il y a rien à dire là.
Moi, j'aime beaucoup dire ça. Mais...
Alors, il y a un domaine où, effectivement, on en parlait tout à l'heure, où les bien-pensants ont aussi fait des dégâts, c'est l'université. Alors, à vous le dire, l'universitaire a quasiment disparu du monde des idées, et surtout à l'étranger. Vous expliquez qu'il est devenu rare de voir des Français dans un grand colloque international. C'est-à-dire que c'est une véritable catastrophe pour l'université française.
Ça se voit d'ailleurs, pour dire simplement, à la dégradation les étudiants votent avec leurs pieds. Nous étions le troisième pays où, où les étudiants étrangers venaient, après les États-Unis et l'Angleterre. Nous ne sommes plus qu'au cinquième rang de cela. Oui, je cite un ou deux exemples. Moi, il y a 20 ans, quand je commençais à circuler, à traîner dans les bagages de mes maîtres, comme Julien Freund, par exemple, eh bien, nous étions un certain nombre à aller dans des grands collègues internationaux. Là, je donne l'exemple, je crois, de Shanghai, où j'étais il y a quelques mois, où j'étais le seul Français, à part l'ambassadeur qui venait dire trois mots par sa fonction, si je puis dire. Mais dans la centaine de conférences, il n'y avait qu'une seule conférence. Ce qui est grave, à mon sens, en tout cas. Et qui chagrine, moi, mais je n'en tire pas un titre de gloire. Je constate tout simplement que il n'y a plus dans les grands colloques internationaux quelque chose qui fait que les intellectuels français sont invités. Voilà, ça c'est un autre problème.
Alors, Pascal Essérick, pourquoi
parce que
ils parlent pas anglais, parce que
non, parce que là
parce que c'est souvent ce que
non, c'est pas vrai ça, parce que d'une part bon, le français on peut le garder encore. Moi, il m'arrive à continuer à faire des conférences en français dans divers endroits. À Shanghai, je l'ai fait en français. Non, c'est pas ça, c'est une question trop facile. Non, c'est que tout simplement, on se targuait de ne pas avoir de pétrole et d'avoir des idées. On n'a toujours pas de pétrole et on n'a pas de moins en moins d'idées, si je puis dire. Voilà. Oui. Donc, du coup, ben voilà, il était un lieu où l'on venait pour divers pays d'Amérique latine, d'Extrême-Orient, terminer, faire, passer quelques mois, faire une thèse, etc. Et, comme il n'y a plus de production d'idées originales, ben voilà, ça marche plus. Alors, on est au cœur de ce propos de notre livre, c'est-à-dire que je montre en particulier dans ce domaine, ben que c'est tout simplement le fait, bien évidemment, de ne pas, comment dire cela, changer de logiciel. Puisque je me fais bien comprendre, pour la bien-pensance, elle est parce que nous sommes restés sur ce que furent les belles idées du contrat social. Moi, je ne dis pas le contraire. Mais il se trouve que la postmodernité, le laboratoire, n'est plus ici. Donc, du coup, il faut trouver des mots, encore une fois, élaborer une pensée qui soit une pensée en adéquation. Et c'est en ce sens qu'il y a cette dégradation.
Et je pense aussi la manière dont les universités sont organisées dans notre pays joue beaucoup. En fait, on refuse la réelle autonomie des universités, qui serait de plus avoir des diplômes d'État, avoir une autonomie complète dans le recrutement, mettre fin aux fameuses commissions au comité national des universités, etc. Parce que nos enseignants, ce sont des fonctionnaires actuellement qui vont d'un endroit à l'autre, non pas en fonction d'ailleurs de leur qualité et des étudiants qu'ils attiraient, mais en fonction de motifs, je dirais, on ne peut plus bureaucratico-syndicaux.
Et donc on est toujours là, c'est le refus de l'autonomie, le refus de la décentralisation, de la régionalisation, de finalement de tous ces mots qui rentrent en...
On n'a pas de décentralisation en France. Une vraie décentralisation, c'est quand chaque collectivité, d'abord... a ses compétences propres et que les autres n'ont pas, et qu'elle a un pouvoir normatif sur ces compétences-là. Or, actuellement, le pouvoir normatif, c'est l'État. L'État qui impose ensuite... ça fonctionne pas. Mais alors, c'est encore plus drôle, parce qu'actuellement, l'État n'a plus d'argent, et donc, il impose des choses qu'il n'est pas capable de faire.
Quand on voit, moi, on est peut-être le seul pays... avec l'Italie, et même l'Italie est en train de changer là-dessus, où il n'y a pas de concurrence d'université, hein, pardon, pas d'université libre, ou je ne sais pas ce qu'on faut dire, privée ou autre, etc. Et du coup, au travers du vieux système jacobin, je vais vous donner un exemple très simple. Ça appauvrit le sang, l'énergie universitaire.
Mais bien sûr.
Je donne un exemple. Moi, j'ai été 4 ans, ça m'a suffi, à ce comité, comment ça s'appelle ? Comité national des universités, CNU. C'est-à-dire une instance qui va qualifier les gens pour être professeurs. Bien, une fois que vous avez passé votre thèse, en plus, il faut passer par cette qualification. Bien, cette instance, elle est composée aux deux tiers par des élus syndicaux. et un tiers nommé. Moi, j'étais nommé à l'époque, donc heureusement, ça m'a permis de foutre un peu de désordre dans cette, dans ce, ce, cette espèce de Niagara, un peu de choses très simples qui étaient dites dans ces commissions. Mais, grosso modo, ce sont des élus syndicaux qui n'ont pas d'œuvre. Puisque quand on milite, on n'a pas le temps de d'écrire, de faire son travail. Bien. Et ils vont avoir en face eux, en face d'eux, des dossiers de jeunes chercheurs qui eux ont des articles, des livres, etc. Imaginez comment psychologiquement vous allez réagir quand vous avez un type de 30 ans qui arrive, qui a plus que vous. Vous avez 50 ans, vous n'avez pas écrit, vous avez écrit un seul livre, et comme ça vous êtes dans cette commission, ben vous descendez. Hein, vous, après, avec des, je le dirais à manière de Vilfredo Pareto, vous donnez une raison, rationalisation, légitimation, etc., mais a posteriori. Et c'est cela qui aboutit à cette espèce d'appauvrissement. Et comme il n'y a pas de concurrence d'universités privées, libres, n'importe où, sauvages, tout ce qu'on veut, enfin, hein, qui pour, comme on le voit en d'autres pays, moi je suis plutôt américanoïaque, j'aime pas les États-Unis, il n'en reste pas moins que leur système universitaire est un système qui est intéressant, parce qu'il y a ce choc. En Amérique latine, c'est pareil, partout. Moi, je vais très souvent à Séoul, c'est la même chose, où on voit bien sûr. Ici, il n'y a pas de concurrence. Et du coup, voilà, ça fait cet appauvrissement du sang.
Surtout que, en vous lisant, on s'aperçoit que l'université, ça devrait être un lieu de doute, de recherche, mais aussi d'erreur, au même niveau qu'un chercheur en mathématiques. Qui pourrait reconnaître si c'est trompé, être dans une impasse. L'université française, c'est l'affirmation, le suisme. Hein. On est sûr de nous.
Alors moi, je connais bien les sciences humaines et sociales. Hein. Moi, j'ai pas envie de le dire pour d'autres secteurs que je ne connais pas et qui peuvent être performants, etc. Je suis au conseil d'administration du CNRS, par hasard, à mon avis, mais en tout cas, je n'interviens que pour ce qui concerne ce domaine que je viens de dire, hein. Le reste, je ne connais pas. Mais dans ce domaine-là, ben, il y a, cette bien-pensance un peu de gauche. Une espèce de marxisation des esprits. Marx a dit et écrit des belles choses, mais la sottise, la doxa, l'opinion publique marxisante ou de gauche fait que d'une certaine manière il n'y a plus en effet ce doute, il n'y a plus ce questionnement. C'était ça l'université, c'était questionnement. Je donne un exemple très simple. Quand au XIIIe siècle se fonde l'université, c'est pour lutter contre l'école cathédrale. L'école cathédrale, c'est l'école qui est autour de la cathédrale pour former, dans le fond, les fonctionnaires du moment, les curés. Bien. Et donc, l'universitas, à la Sorbonne, se crée justement pour non pas faire uniquement des fonctionnaires du moment, mais universitas. C'est-à-dire cette idée très transversale où on va faire de la philo, des arts, du droit, etc. Et aussi de la théologie, d'ailleurs. Mais cet ensemble-là, ayant une vision d'universitas de confrontation de disciplines. Bien. Or, il se trouve que actuellement, progressivement, ce qui est en train de devenir l'université, c'est une nouvelle école cathédrale. C'est-à-dire, ça forme des fonctionnaires, ça forme les curés modernes, vous voyez, mais plus du tout ceux qui étaient en forme de questionnement, d'interrogation à partir du choc de disciplines différentes.
Hélène Stroll, il y a aussi une autre cathédrale que beaucoup de gens critiquent, c'est l'ENA.
Oui. Alors on va pas d'ailleurs dire, pour une fois on va dire l'ENA, et puisque moins de gens savent, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France les écoles de service public, c'est-à-dire les écoles qui forment les directeurs d'hôpitaux, les commissaires de police, même les magistrats d'une certaine manière. Dans d'autres pays, vous faites des études. Et ensuite, vous êtes recruté sur ces postes-là, et si vous faites l'affaire, on vous garde le temps où vous êtes adapté au poste, etc. En France, on est recruté à 20 ans sur des concours qui sont finalement d'un niveau de réflexion assez bas. Faut avoir pas mal de connaissances.
C'était une bonne idée au départ, le concours. C'était dans votre livre, ce que vous critiquez, c'est en fait le concours par lui-même. C'est ce qu'on leur demande ne correspond en rien au poste.
Oui, c'est-à-dire que d'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le concours, quand on recrutait 5000 employés, mais qu'il n'y en avait pas du temps de Balzac, mais qu'il n'y en avait pas tellement qui se présentaient, ça avait un sens. Quand actuellement, vous faites un concours pour des contrôleurs du travail, par exemple, et que vous avez 30 postes et que vous avez 5000 candidats, vous pourriez aussi bien, moi j'y ai participé, on pourrait aussi bien jeter les copies du haut de l'immeuble et dire que les...
Ils sortent de l'auto, on pourrait faire.
Mais c'est un total l'auto, quoi. Il faut pas... ça n'a plus beaucoup de sens. Ensuite, je pense que ces épreuves ne sont plus effectivement adaptées au genre de décideurs dont on a besoin. C'est-à-dire des gens qui se questionnent, des gens qui pensent, des gens qui savent travailler en équipe. En fait, ce sont toutes ces qualités qu'on ne trouve pas dans les gens qu'on prend dans les concours, parce que est privilégier la rapidité, est privilégier la compétition interindividuelle, est privilégier une espèce de rationalisme et simpliste au détriment de l'intuition et de la prise en compte des choses plus émotionnelles ou plus affectives.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Nous sommes dans le studio avec Michel Maffesoli et Alice Troll pour Les Nouveaux Bien-Pensants aux éditions du moment. Si aux fonctionnaires, vous expliquez, Alice Troll, on a peu de place, en fait, quand on est en poste, on a peu de place à la réflexion.
Oui, bien sûr. Alors, le pire, c'est quand on est dans un cabinet ministériel, parce que alors là, on n'a plus du tout le temps de réfléchir. Mais en général, on dit d'ailleurs les fonctionnaires qui travaillent dans l'opérationnel, et puis il y en a quelques-uns qui sont dans les corps d'inspection, Conseil d'État, etc., qui eux ont un peu plus le temps de réfléchir. Mais de toute façon, leur ambition, c'est d'en sortir. C'est d'aller occuper un vrai poste opérationnel. Moi, j'ai passé à peu près toute ma carrière dans un service d'inspection parce que j'aimais bien cette observation et cette réflexion, ce va-et-vient entre ce que les politiques essayaient de faire et comment ça se passait sur le terrain. Mais, je veux dire, un certain nombre de mes camarades ont un certain mépris pour ce type de carrière.
Alors, on va arriver, bien sûr, au cœur du pouvoir, c'est le politique. Le politique, il est encore avec aussi cette solution miracle qui serait qu'une reprise économique ou une baisse du chômage, en gros, réglerait la crise et tout ira mieux. Il est rare qu'il soit capable de voir que cette crise est beaucoup plus profonde. En tout cas, il ne veut pas l'admettre, qu'il y a une vraie crise de société en France.
Oui, moi, la crise, actuellement, on l'a réduit en effet à sa dimension économique. Dès qu'on dit le mot crise, traditionnellement, c'est de suite dimension économique avec le chômage, en fait, tous ces trucs-là qui sont pas faux, mais qui, dans le fond, prend la conséquence pour la cause. Ou l'effet pour la cause, pardon. La crise, en effet, pour moi, est sociétale dans le sens que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a un changement de cycle, une époque qui s'achève. Voilà, c'est tout. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et donc, c'est un... quand on dit... Alors, je dis, moi, sociétal. Pas dans le sens, malheureusement, où ce mot, maintenant, devient un mot passe-partout. On emploie le mot sociétal à tire-larigot. Je crois être un des premiers à avoir proposé ce mot de sociétal dans ma thèse d'état dans les années 70, ou justement un peu dans la pensée allemande qui était la mienne. Je voulais rendre attentif à quelque chose qui était fort. Par exemple, l'objectal chez Lukács, c'était devenir objet du monde. L'historial chez Heidegger, c'était comment l'histoire nous traversait, etc. Bon, le mot sociétal, c'était pour dire, c'est pas simplement un être ensemble rationnel, il y a ce substrat, il y a les rêves, les fantasmes, l'onirique, le festif, sous ses diverses formes, et il y a retour en force de tous ces paramètres humains. C'était ça, le sociétal. Et pour moi, la crise, elle est là. C'est-à-dire, encore une fois, une manière de se penser, et donc une manière de s'organiser, qui est en train de se changer, et qui ne se réduit pas à l'économie. Qui ne se réduit pas au politique, tel que le politique est devenu, ce que le politique est devenu actuellement. Voilà. Et donc, du coup, oui, je pense que ces bien-pensants restent focalisés sur une conception très économiciste du monde, ou politiste du monde. Voilà. Et n'arrive pas à avoir cette espèce de recul qui permettrait d'avoir une conception, osons ce gros mot, holistique. J'utilise cette belgitude de l'entièreté, l'entièreté de l'être, du vivre ensemble et tout à l'avenant. Voilà, et du coup, on reste focalisé sur le petit truc de la lorgnette, le petit bout de la lorgnette, sans voir comment il y a un vrai changement de fond qui est perceptible, en particulier, je pense, chez les jeunes générations. Si je puis me permettre deux mots. et ça c'est vraiment deux mots. c'est ma seule idée obsédante, la seule qui restera peut-être tout mon travail, que après j'ai décliné de diverses manières, et que j'avais développé dans mon livre qui s'appelle La violence totalitaire, c'était la violence de l'État. C'était une distinction entre le pouvoir et la puissance. Et on emploie souvent l'un pour l'autre. Alors que j'ai montré que le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir symbolique, était tributaire du substrat, de la puissance.
La puissance qui est le peuple.
Le peuple, la puissance populaire, voilà, etc. Et que, donc, du coup, on reste omnubilé par le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est même la contestation du pouvoir. Quand on conteste le pouvoir, je rappelle moi l'étymologie du mot contestar, et ça veut dire témoigner avec. On est tributaire du pouvoir. Et on reste globalement, hein, encore une fois, journaliste, universitaire, politique, on va pas le répéter 100 fois, reste omnubilé par le pouvoir et sont incapables de saisir cette puissance de base, cette puissance politique, puissance populaire. Voilà où est le changement. Le changement, il est en train de s'opérer dans cette nappe phréatique qui est cette puissance de base. Hein. Et du coup, le pouvoir, c'est s'abstrait, dans le sens un peu du terme. Hein. Machiavel l'avait dit. La pensée du palais est tributaire de la pensée de la place publique. À certains moments, il y a une déconnexion entre les deux. Voilà en quel sens, moi je dis, elle est là, la vraie déconnexion.
Mais est-ce que le peuple, la puissance, est prêt à ce changement? Parce qu'il y a souvent une contradiction, c'est-à-dire qu'on et Alain Stroll l'expliquait, il n'y a plus de solution miracle et de loi qui pourrait régler un problème unique. Il faudrait aider chaque communauté. Ça, c'est le grand mot qui est tabou en France, les communautés. En même temps, on a un peuple qui veut avoir la solution miracle du politique. Hein,
mais quand, Alain Stroll. Quand le peuple pense politique. Effectivement, il pense à la solution miracle, l'État a remplacé Dieu et effectivement règle le problème. Mais je pense qu'il faut s'attacher aussi à ce qui se fait au jour le jour et au quotidien. Par exemple, vous avez des tas d'initiatives de solidarité, de proximité qui se passent, des gens qui travaillent ensemble et tout, et ça fonctionne. Mais c'est très difficilement traductible en termes politico-administratifs.
Moi, je suis pas d'accord avec vous sur le peuple qui resterait omnubilé par le pouvoir, d'une certaine manière.
Oui.
Non, comment le dire, ça? Dans ces grands moments de changement, de mutation, là, je vais utiliser une formule que utilisent les sociologues américains. Enfin, Yann, on va plaquer le stock de connaissances que l'on a à disposition. Stock of knowledge. On a un stock de connaissances, c'est-à-dire les mots. Et donc, du coup, on va dire, par exemple, il faut arrêter le chômage, enfin, il faut réduire le chômage, il faut ceci, cela, etc. Bon, ça parce que on ne peut pas dire autrement. Donc on n'a que ces mots-là, on n'a que cette grande logique. Mais quand on regarde un tout petit peu, si on gratte un tout petit peu, et c'est ça pour moi les recherches qualitatives d'une vraie sociologie, pas une sociologie simplement quantitativiste, eh bien on se rend compte que ce n'est plus simplement la valeur travail qui prédomine. Donc c'est pas l'absence de travail qui est importante. Hein. C'est, encore une fois, le qualitatif de l'existence, ne pas perdre sa vie à la gagner. On pourrait trouver des quantités d'expressions du même ordre. Vous voyez ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire qu'on plaque quand on fait des enquêtes, on sait que vous avez envie que je vous réponde que le chômage c'est pas bien. Donc bien sûr que je vais vous répondre que le chômage c'est pas bien ou autre chose de cet ordre, voyez, etc. Mais fondamentalement c'est plus ça qui est en jeu. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Et il faut regarder un peu le fondement. Et ce que vient de dire Alain Stroll est important, c'est-à-dire que c'est vrai. Vous l'avez dit il y a un instant, qu'en France, cette idée de communauté est toujours quelque chose qui fait peur. Et on va taxer le communautarisme, bien évidemment, ce que moi j'ai proposé d'appeler l'idéal communautaire. Hein, c'est-à-dire le fait que, bon, il puisse y avoir des solidarités de base, il puisse y avoir des formes de générosité, on en a des quantités d'expressions de cet ordre. Mais voilà, du coup, on ne va pas prendre au sérieux le fait que puisse exister à la base ce vécu ensemble, ces communautés qui s'articulent les unes par rapport aux autres, qui peuvent lutter contre la délinquance, qui peuvent lutter, bien évidemment, pour trouver des manières de prendre en charge quelqu'un qui n'a pas de boulot. Vous voyez des quantités de phénomènes de cet ordre.
Mais vous voyez bien que, en tout cas dans les médias, il y a une j'allais dire presque une haine du communautarisme, de vos, ce mot. Enfin, en tout cas en France, est lourde.
Non, moi, j'aime pas le mot communautarisme. Je vous ai dit que.
Oui, bien
sûr. Vous parlez
plutôt de communauté.
Oui, moi, je n'aime pas le mot communautarisme. Je l'avais dit d'ailleurs dans une préface que j'avais faite
sur le livre de Constance Auprévé.
Parce que il est stigmatisant.
Bien sûr.
Il est stigmatisant.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des communautés, hein, point, c'est le marre. Il faut accepter cette idée qu'il y ait de la communauté et donc des nouvelles formes de solidarité, etc.
Mais c'est pareil, vous avez des journalistes politiques qui vont parler...
Rapprochez-vous du micro,
c'est... vont effectivement taxer de communautarisme toute attention à la diversité des communautés. Et en même temps, regardez un peu les reportages qui passent à la télé, à la radio, etc., sur la manière dont vivent les Français, sur toutes ces expériences d'échange solidaire, par exemple, où il y en a tout le temps, chaque semaine, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement attentifs à ça. Et les journalistes eux-mêmes voient bien que ça marche. Et donc, je dirais qu'il y a deux choses. Effectivement, il y a le discours qu'on a contre les communautés en disant que c'est du communautarisme. C'est-à-dire, en fait, une organisation politique des communautés d'appartenance et d'origine et une attention à ce foisonnement de liens communautaires qui est tout à fait autre chose.
Prenons un exemple, si
Michel Mercier.
La multiplication actuellement de termes avec le mot co-voiturage, co-location, co-ceci, co-cela, etc. Qui traduisent tout simplement des solidarités communautaires. C'est-à-dire que Internet est dans. C'est là aussi où la bien-pensance a du mal à prendre acte de cette horizontalité, où c'est plus la loi du père, moi j'ai dit, la loi des frères, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a de l'horizontalité, tout simplement, par le biais d'Internet. Eh bien, ça c'est tout simplement le fait que, de facto, il y a en effet des formes de solidarité. Un de mes étudiants a fait une étude sur les colocations dans les grandes villes. La traduction habituelle, c'est de dire les appartements sont chers à Paris, etc., on ne peut pas se payer d'appartements. Ce qui n'est pas faux, forcément. Mais quand on regarde un peu plus près, c'est qu'il y a vraiment le désir de faire de la colocation, c'est-à-dire de créer une forme de
une communauté,
vous voyez. On vient de terminer aussi dans mon centre une étude sur le couchsurfing, comment ce réseau fait que je vais trouver un lit à Berlin, à Munich, à Hambourg, à Barcelone, etc. C'est l'hospitalité des Moyen-Âge, d'ailleurs, par parenthèse. C'est créer des formes de communauté. À charge de revanche, pour moi, d'offrir un lit à Paris quand j'aurais été reçu, etc. Et cela crée des communautés au niveau européen, là. Et bon, il est intéressant de voir ces communautés qui sont en train de se faire.
Je pense que la différence, et sur laquelle il faut bien insister, entre cet idéal communautaire et finalement les communautés ou les corporations pré-révolutionnaires et tout, c'est qu'avant vous étiez déterminé par votre naissance, vous apparteniez à une communauté religieuse, une communauté professionnelle, une communauté de quartier ou villageoise. Et ça allait déterminer tout votre habitus. Alors que maintenant, en fait, vous pouvez appartenir à plusieurs communautés et vous pouvez avoir des jeunes musulmans et des jeunes catholiques qui partagent la même passion d'une certaine musique, d'un certain sport, etc. C'est-à-dire que les gens sont plusieurs.
En relisant, parce qu'en fait cette idée de communauté, elle est loin d'être récente. En lisant l'histoire de la formation de la classe ouvrière d'Edward Thompson, je retrouvais où il expliquait que la révolution industrielle avait volontairement fait disparaître tout centre d'entraide et communautaire qui existait chez les artisans, chez les paysans, pour qu'ils soient dans l'obligation de dépendre de la manufacture. Le problème, c'est que j'ai l'impression que en France, quand on parle de communautarisme, on ne parle que de communauté ethnique. On a du mal à comprendre qu'il puisse avoir d'autres communautés que le côté ethnique.
Oui, bien sûr, mais moi je dis, quand j'avais émis l'hypothèse un peu provocatrice à l'époque pour moi des tribus, c'était pour rendre attentif au fait qu'il y avait des tribus, c'est-à-dire des communautés. J'aurais dû employer le mot communauté plutôt que le mot tribu dans le fond, mais maintenant je garde l'idée du tribalisme.
C'est trop tard.
Maintenant c'est trop tard, je peux pas l'appeler. Mais dans le fond, c'était des communautés, c'est le partage d'un goût. C'est pas uniquement ethnique, hein, c'est le partage d'un goût sexuel, musical, religieux, sportif, etc. Et il faudra accepter ce qui passe pas bien en France, même mal, c'est que, après tout, on puisse penser la res publica comme étant la cohésion de choses différentes. Non pas la République une et indivisible, hein, ce qui fut le rouleau compresseur de la République au 19e, mais qu'il puisse y avoir une mosaïque. Qu'est-ce que c'est qu'une mosaïque? Image, métaphore, hein. C'est la cohésion de pièces qui gardent sa forme, sa couleur, sa configuration et tout à l'avenant. Et pourtant, ça tient. Hein, si je le dis un peu à la manière de Galilée, et pour ces mots, pourtant elle tourne. Hein, bien, et pourtant ça tient. Voilà, c'est tout. C'est pas ethnique uniquement, hein, mais bien évidemment, la dimension ethnique aussi aura sa place. Hein, faut pas la nier.
Forcément. Bien sûr.
Et la dimension religieuse aussi. Hein. En France, pour ne pas voir qu'il y a un pluralisme des religions et des croyances, eh bien, on a inventé la laïcité comme espèce de neutralité et de gommage. Beaucoup de laïcars ont pour ambition, l'éradication des religions.
Bien sûr, oui.
Oui, bien. Même vous expliquez que dans votre chapitre sur les hauts fonctionnaires, que on a presque l'impression qu'ils font une carrière de professeur de la chose publique, c'est-à-dire que pendant toute leur carrière, ils savent ce qu'a besoin le peuple et leur mission, c'est de leur donner la solution. Oui. C'est-à-dire, on a l'impression d'être toujours à l'école pendant toute sa vie avec la fonction publique française.
Et ils savent toujours ce qui est bon. Au ministère de la Culture, on sait ce qui est beau, ce qui est la grande culture, ouais. Et on va faire des circonvolutions énormes pour la démocratiser, c'est-à-dire enfin faire accéder le bon peuple, lui faire abandonner l'accordéon ou le hard rock pour apprécier la musique sérielle. Au ministère de l'Éducation nationale, je dis toujours que l'échec scolaire, la définition de l'échec scolaire, c'est de ne pas avoir réussi Polytechnique ou l'ENA, etc. Vous voyez,
donc quand on fait des études, on a toujours un échec de quelque chose. Ouais, on n'a pas arrivé de telle école, donc on a fait un peu
et
moins.
Et d'ailleurs,
c'était mon grand drame aussi, moi.
Et d'ailleurs, les énarques sont, à part le major, sont tous un échec quand même,
ouais.
Puisqu'ils sont pas sortis premiers.
Ah oui.
Est-ce que c'est une situation typiquement française, ou est-ce que l'Europe aussi a ce même malaise?
Et je rajoute une question. Certains se glorifient de cette situation. Enfin, certains, je pense à tout un discours. Éric Zemmour en est peut-être un des plus hauts représentants. En fait, font l'éloge de ce républicanisme, voilà, c'était
Oui. Zemmour, j'ai discuté souvent avec lui. Je l'estime, moi, à titre personnel.
Bien sûr,
mais nous sommes très opposés là-dessus.
Bien sûr, quoi, oui, bien sûr.
Il y a un côté un peu, c'était mieux avant.
Il est vraiment républicaniste.
Oui. Pour le coup, c'est même le quintessence.
Je le défends quand même, parce que je trouve que je préfère ce discours un peu, même si je suis en désaccord profond avec lui. Voilà, il a le courage de dire un certain nombre de choses et de les dire à sa manière, pas saute, etc. Voilà, c'est clair. Moi, je suis vraiment opposé, mais il n'en reste pas moins que ça ne me plaît pas du tout. Au contraire, discuter avec lui. Alors, sur votre première remarque, j'en sais rien. J'en sais rien. Si, je pense que c'est quand même bien français. Pour une raison simple, je vous ai dit tout à l'heure que la France avait inventé la modernité et ce grand républicanisme, cet universalisme, la construction pyramidale, jacobine, colbertiste, c'est tout à l'avenant, ça vient de fort loin. Permet de vous renvoyer à ce qui est un livre que j'ai écrit il y a fort longtemps, qui est totalement inintéressant, non, très intéressant, mais écrit dans un style qui était le style académique, ma violence totalitaire, où là, en 78, je faisais une critique du service public, je faisais une critique du mythe du progrès, je faisais une critique de la révolution, etc., en faisant un historique. D'où ça venait, c'est-à-dire ça vient aussi déjà des missi dominici, ça vient des grands commis de l'État. On a une vieille tradition française, si vous voulez, hein, qui faisait que dès Philippe le Bel, Philippe Auguste, Louis XIII, Louis XIV,
Colbert, etc.,
et que dans le fond la Révolution française.
Mais alors pourquoi vous voulez la changer ?
Quoi ?
Ben, cette grande tradition, là vous voulez.
Écoutez, moi je pense quand même qu'il y avait à côté une vieille tradition régionaliste en France. Je rappelle la formule de Maurras, qui est pas inintéressante, hein. L'anarchie, c'est l'état pluriel plus un, le roi, fait que symboliquement ramasser les morceaux. Voilà, quelque chose qui ramasse en quelque sorte les morceaux. Et donc, je sais pas, moi, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit, d'ailleurs. Je tiens à vous le préciser, je suis un contemplatif et pas du tout un acteur politique de quelque manière que ce soit. Mais je constate qu'il y a une vieille tradition qui a gommé en quelque sorte les différences. Dans beaucoup d'autres pays, dans le fond, ce n'est que très tardivement qu'il y a eu cette unification dans l'État-nation.
Bien sûr. Hein,
1870 pour l'Allemagne, à peu près la même chose pour l'Italie. Mais tous ces pays européens, restons sur les pays européens.
Bien sûr. Hein,
garder des régions, des Landes, on voit bien comment l'Espagne fonctionne, l'Italie fonctionne, l'Angleterre fonctionne, etc. Même l'Angleterre qui
est hein. Et la culture, l'éducation dans ces pays, par exemple, qui en fait façonnent quand même la mentalité quotidienne, sont du ressort de des régions ou des Länder. Je veux dire, en Allemagne, on trouverait quand même absolument absurde d'imposer une réforme des rythmes scolaires aux enfants ruraux comme aux petits Parisiens, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens dans un autre pays. Et je pense que c'est ce modèle-là qui craque, parce que il s'est quand même imposé. Je veux dire, il s'est imposé contre les parlements, contre la fronde, etc. Ça a été un véritable. La centralisation ne s'est pas faite sans peine. C'était un combat. Et je crois qu'actuellement, ça craque et ça fonctionne plus. Ça se délite.
Ça se fait vraiment à la fin du 19e siècle. Les hussards noirs de la République, hein, qui vont imposer. Moi, je suis encore d'un petit village Sévenol, je vois encore comment mes grands-parents parlaient le patois. Et ce n'est que tardivement que, dans le fond, on a gommé les dialectes locaux ou les patois ou autre.
La guerre 14-18 a fait aussi son effet.
Exactement, oui. Voilà. Donc, ce pour dire que c'est tout de même assez français de ce point de vue, mais je maintiens, la France a inventé la modernité, elle est très impuissante vis-à-vis de la postmodernité naissante.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, et on reçoit Michel Maffesoli et Hélène Stroll pour les nouveaux bien-pensants. En parlant, c'est peut-être l'avantage qu'a Éric Zemmour, c'est que ce que vous parliez de ces hussards noirs, c'est que c'était d'une violence totale pour faire rentrer tout le monde dans le moule. C'est quelque chose qu'on a peut-être parfois un peu oublier et qu'on n'ose plus dire pour essayer de faire rentrer cette nouvelle immigration. Et c'est peut-être là où Éric Zemmour a raison, c'est qu'on n'utilise plus ce système.
Il a été parachevé par la guerre 14-18 aussi. Donc
oui, mais en même temps, on vit avec une haute fonction publique qui effectivement est restée sur ce modèle, mais qui n'ose plus regarder. Il y a quand même des réformes, et c'est peut-être là que parfois les Français sont un peu réticents, vouloir faire disparaître les départements, qui est quand même quelque chose qui montre bien cette centralisation du pouvoir. Les Français commencent à se rattacher à ces départements qui ne représentaient rien.
Vous pensez ça, il faut voir aussi.
Regardez simplement, rien que les plaques d'immatriculation où tout le monde a voulu garder son département, l'échec de l'Alsace qu'on a voulu réunifier, même en Corse, je connais bien la Corse.
Réunifier,
c'est-à-dire avoir une dynamique. Est-ce que tous ces projets qu'on a entre guillemets appelés décentralisation est une vraie décentralisation, ou c'est en fait encore un tour de passe-passe de nos hauts fonctionnaires?
Mais c'est pas une vraie décentralisation.
Voilà, c'est là que je voulais vous entendre parler.
Je veux dire, c'est, vous avez un cadre, je le répète, vous avez un cadre normatif qui est uniquement décidé au niveau central, et ensuite vous avez des collectivités territoriales qui doivent appliquer. Déjà, ça, par exemple, ça me frappe. J'entendais un débat ce matin. Le gouvernement a dit, durant le quinquennat, nous augmenterons le RSA de 10%. Et le RSA est intégralement payé par les départements. Voilà. Je veux dire, c'est assez inouï de dire ça. Et d'ailleurs, c'est assez inouï de fixer le même niveau pour un minimum vital à Paris, en région parisienne, et en Creuse, en Lozère, etc., où le coût de la vie n'est pas du tout le même. Hein. Voilà, par exemple. Donc c'est déjà pas une décentralisation à cause de ça. Mais alors, en plus, cette espèce de pseudo-décentralisation a abouti en fait à une espèce de maelstrom total, parce que toutes les collectivités, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions et l'État, tout le monde s'occupe de la même chose. Et donc chacun donne 3 francs 6 sous pour faire la même chose. Pour acheter un fauteuil roulant à une personne handicapée, vous avez à peu près la participation d'une dizaine d'instances qui vont donner 100 euros. 50 euros. Mais ce sont des heures et des heures de gestion. Ça coûte extrêmement cher. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de fonctionnaires? Parce que chaque collectivité, l'État compris, gère tout.
Alors cela dit, si je puis faire une...
Michel Maffesoli.
Faire une nuance, parce que je reste préoccupé par ce que vous disiez tout à l'heure. En fond, le peuple va être attaché au département même. Et là, je maintiens ma distinction d'Auguste Comte, hein, par après reprise par Maurras, on me le renvoie chaque fois à la figure,
oui,
entre le pays réel et le pays légal. Yeah. Bon, on peut dire autrement, on peut dire d'ailleurs la société officielle, la société officieuse. Hein, moi, j'emploie maintenant ces deux expressions. La société officieuse, actuellement, elle se reconnaît de moins en moins dans ces instances qui sont des instances. Alors, elles existent, ne serait-ce que pour payer le fauteuil roulant ou autre, bien sûr. Mais comme ça revient à ce que on disait quand j'étais jeune, l'université est intéressante pour les bourses qu'elle nous donne. Vous voyez, donc de fait, bon, on peut récupérer ici ou là des éléments de cet ordre. Mais dans la société officieuse, ce qui est important, le pays, c'est le canton. Ah, c'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui est proxémique. Nous n'avons pas ce mot proxémique. Hein,
vieux canton. Alors, pas les nouveaux cantons.
J'ai pas regardé où ça en est. Ce que je veux dire, c'est l'Oupaïs, comme on dit chez moi. L'Oupaïs, c'est les 4 villages autour qui ont des manières assez semblables de cultiver les tomates, les aubergines, ceci, cela, ont des idiomatismes spécifiques quant au terme, etc. Vous voyez, donc, soyons attentifs, de même, à cette évolution de fond qui fait que le grand et vieux jacobinisme qui avait exporté l'État dans les départements ou qui avait même exporté l'État dans les régions, eh bien, n'a plus la même prégnance, n'a plus la même force. Voilà. Moi, ma tendance, elle est de montrer comment, en quelque sorte, existe cette société officieuse où des nouvelles formes de solidarité se font, et grâce ou à cause d'Internet.
Et on parle d'ailleurs du territoire, en fait, de plus en plus. Même maintenant, l'administration prétend s'emparer du mot territoire, territoire de santé, par exemple, pour décrire l'organisation en réseau entre les hôpitaux, les cliniques, les médecins libéraux, etc. Mais là encore, ça fonctionne pas, parce que ça fonctionnait quand les différents professionnels d'un endroit s'arrangeaient entre eux, construisaient un réseau, le formalisaient, et ensuite, effectivement, pouvaient demander éventuellement un financement public. Mais quand on décide, depuis Paris, comment vont être les réseaux et qu'on décide des découpages, eh bien, ça ne fonctionne plus.
Bien sûr.
Alors, ce décalage entre ces élites et son peuple, c'est pas nouveau dans l'histoire de France, et en règle générale, il a souvent permis l'émergence d'une critique plus virulente, plus radicale, et puis ensuite parfois une révolution, mais on en est peut-être loin. Cette pensée, la critique à part vous, j'ai envie de vous dire, y a-t-il une pensée radicale qui est en train de s'opposer, je veux dire, à ce pouvoir en ce moment? Ou alors, est-ce qu'on est dans une sorte de ronronnement
Non, moi, je suis pas... je suis pas pessimiste sur ce que sur la. Il y a une vraie vitalité quand on regarde ces jeunes générations qui, pour moi, représentent cette société officieuse, en quelque sorte. Il y a un grouillement culturel très fort, mais qui ne s'exprime pas, ni certainement dans la révolution, ni dans la contestation. Moi, je vois, j'ai plus de, mes étudiants ne contestent plus. J'ai rappelé, contestar, ouais. C'est témoigné avec. On est tributaire de cela même que l'on conteste. Et il faudrait là revenir à des belles intuitions du regretté Baudrillard quand il parlait dans l'ombre des majorités silencieuses, le ventre mou du social. Enfin, il y avait quelques métaphores comme ça de gens qui traduisaient ces processus, on va dire, d'abstention. Cause toujours tu m'intéresses. Cette vieille idée, dans le fond, qui était la sécession plébis dans l'ancienne Rome, c'est-à-dire le peuple se retire, etc. Et cela se traduit par le fait qu'il y a une vraie vitalité, vous voyez, c'est-à-dire on ne se reconnaît plus dans les instances officielles, et en même temps il y a une vraie vie qui est en train de se faire. Voilà, moi je suis fasciné, je dois avouer. On trouve pas de boulot, on trouve pas de logement, et pourtant ça vit, je disais tout à l'heure. Et bien là on voit bien comment mais cela ne s'exprime pas par ce au travers de quoi nous étions habitués à faire passer la contestation, c'est-à-dire le politique, la révolution, les machins, les choses, etc. Non, c'est plutôt une société qui est à côté et qui va, de temps en temps, je vais donner une image qui, de temps en temps, va s'exprimer, c'est les indignados. C'est une indignation multiple et diverse, pas celle de SL qui est une indignation à bon marché puisqu'elle coûte 3 euros, mais
vrai qu'elle était pas chère.
Elle était pas chère du tout, mais des multiples indignations qui peuvent se faire ici ou là. Je sais pas, moi, j'ai pas regardé, j'étais pas en France, mais les bonnets rouges ici ou là ou d'autres expressions de cet ordre traduisent comment le fait qu'à certains moments, dans ce lac de montagne à l'eau étale, en dessous ça grouille. Et puis, de temps en temps, vous avez des espèces d'immenses bulles avec des métastases autour qui s'expriment. Voilà pour moi ce qui sera plutôt ce qui est en train de se passer.
Est-ce qu'on pourrait voir dans les, on l'a vu dans l'actualité l'année dernière, la manif pour tous qui a été, pour le pouvoir, c'était la droite, c'était les réacs, c'était les cathos, c'était l'extrême droite. Mais il y avait quand même une jeunesse qu'on n'avait jamais vue dans la rue. Et dans l'autre sens, ce qui s'est passé à Nantes où on voit, je parle pas de la manifestation par elle-même, où on voit des jeunes ingénieurs aller s'installer sur les terrains de l'aéroport. Est-ce que c'est une forme de contestation qui est effectivement dans cette pensée-là, c'est-à-dire que des gens qu'en fait on ne voit pas venir idéologiquement, quoi.
Oui, moi je n'ai pas envie de défendre la manif pour tous, mais j'étais attentif tout de même au fait qu'il y avait en effet ces espèces de ras-le-bol. On n'acceptait plus l'imposition par en haut.
Oui, parfois on avait l'impression que c'est presque un prétexte.
Moi je pense que c'est prétexte. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est des prétextes. Ces lois ne servent à rien, je veux dire, sont des lois ridicules de diverses manières. Mais en même temps, ça peut servir de prétexte en disant il y en a assez. Cette expression ras-le-bol, moi, me paraît intéressante à bien des égards. C'est ça, une forme de l'émotionnel, etc. Alors ça peut prendre des formes diverses. Ça va être la manif pour tous, ça peut être, pourquoi pas, j'ai moins suivi
l'aéroport de
Nantes, donc j'ai pas bien, je suis pas capable d'en parler, mais disons qu'il va y avoir, à mon sens, des multiplications de phénomènes.
Oui, les manifestations contre l'aéroport de Nantes étaient plus classiques, on retrouve les gens qu'on a l'habitude de voir, ceux qui aiment faire, ceux qui aiment casser, et ceux qui, au contraire, ont une contestation très, très rationnelle, environnementale. Dans la manif pour tous, on avait plutôt parfois l'impression de voir que pour un certain nombre de jeunes gens, ils pouvaient eux aussi aller manifester. C'est ça qui était. Et c'est curieux parce qu'on est quand même à peu près persuadé qu'ils connaîtront le même taux de divorce et le même taux de et les mêmes difficultés de mariage que les autres.
Vous voulez faire exploser le central de Radio Courtoisie. Continuez.
Mais écoutez, merci.
J'ai une question, tout simplement parce que je voulais entendre Michel Maffesoli sur un homme qui l'a beaucoup marqué et dont il a fait l'éloge dans le dernier numéro d'Éléments, qui était Gilbert Durand, et dont la presse française a absolument pas rendu compte, enfin ou très peu. Et je voulais que en quelques mots, ben, vous nous parliez de cet homme qui je crois, enfin, j'en suis sûr, a été important.
Oui, moi, c'était mon maître, mon ami, et qui m'a, à bien des égards, marqué profondément dans tout ce que j'ai écrit. Je vous renvoie à l'article, enfin, aux questions que vous avez répondu dans Éléments, si vous voulez, où j'avais pesé chaque mot, hein, de certaine manière. J'avais été nuancé de la manière suivante. C'est pas bien grave que la grande presse n'en ait pas parlé. Plutôt, c'est un signe. C'est un indice, bon, voilà, de cette bien-pensance. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire, très précisément, dans ce qu'il a écrit, au-delà de son travail majeur, qui sont les structures anthropologiques de l'imaginaire, il n'a jamais été un homme conforme, justement, parce que, bon, ben, je sais pas, par exemple, il citait Jung, il citait des auteurs, dans le fond, qui n'étaient pas reconnus dans la bien-pensance habituelle, dans la doxa, que je disais, des intellectuels de gauche parisiens. Français, mais bon, parisien, puisque la basse-cour parisienne est là, ce que l'on sait. Donc, du coup, c'est vrai, moi j'ai essayé, et puis j'ai pas pu faire passer d'article que ce fut dans le Figaro, dans le Monde, n'en parlons pas. Bon, Libé, c'est pas en question. Mais
voilà. Pourtant, enfin, je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent pas Gilbert Durand.
Je vais le dire en un instant. Mais juste, tout de même, j'ai essayé de montrer dans cet article d'éléments qu'il y avait eu une vraie répercussion mondiale.
Exactement.
Internet aidant, d'ailleurs, encore une fois, hein. Et on voit bien là encore où il faut relativiser la presse. Hein, il faut voir ce que signifie dans le fond les 60 000 lecteurs de Libé, les 250 éventuellement du Monde, les 350-400 du Figaro. Bon, ben d'accord, mais enfin, je veux dire, c'est pas quand même la France en son entier.
Bien sûr.
Par contre, il y a eu toute une série de encore une fois, de répercussions. Au travers de ces nouveaux médias hein, qui sont là et qui sont la presse. Avant de répondre sur le fond, je rappelle, vous savez ce que disait Hegel, la lecture du journal est la prière de l'homme moderne. Bon, quelques décennies après, je vais le dire en français, Nietzsche parlait de ces mêmes journaux en disant le vomi matutinal. Hein, donc de ce point de vue, bon, il faut voir ce que vous voyez la dégradation rapide. Je vous le dirai en latin si ça vous amuse. Mais parce qu'il le dit en latin. Mais voilà, donc vous voyez, il y a une relativisation de cette presse qui pour moi ne représente plus grand chose. Voilà. Sur Durand lui-même, voilà, il a publié en 1960 les structures anthropologiques de l'imaginaire, sur une thèse qu'il avait faite sous la direction ou dans la foulée de Gaston Bachelard, et en montrant que dans le fond, on ne pouvait penser le réel qu'à partir de l'irréel. Hein, c'est-à-dire ces éléments un peu que l'on considérait comme étant secondaires. En France, depuis Descartes, ben il y a le réel et l'imaginaire. Hein, ce qui est imaginaire n'est pas réel, si je puis dire. Hein. Donc on voit bien cette distinction qui va perdurer, qui vient de fort loin, hein, qui vient de Saint-Augustin. La raison humaine conduit à l'unité pour justifier le monothéisme. Et il ne faut adorer Dieu qu'en esprit et en vérité. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui fait que fondamentalement, il y a cette prévalence de la ratio, puis ça va être la déesse raison sous la Révolution française et tout à l'avenant, qui fait que fondamentalement, il y avait cette vieille méfiance vis-à-vis de l'imaginaire. Je rappelle juste pour mémoire, c'est Durand qui me l'avait fait remarquer, que le premier livre de Sartre qui s'appelle L'imagination, 1936, c'est encore une condamnation de l'imagination qui ne permet pas le bon fonctionnement de la raison. Hein. Et prenant ici l'idée de Malebranche, l'imagination c'est la folle du logique. Voilà. Bon, donc il y a cette vieille tradition iconoclastique, et Durand a été un de ceux qui, justement, a montré comment, au travers de l'image, ben, pouvait se créer une société, comment ça pouvait faire ciment. Alors c'est ce grand livre majeur, traduit en de nombreuses langues, qui sont les structures anthropologiques de l'imaginaire. Et puis, il y a toute une série d'ouvrages qui ont ponctué sa carrière, mais exactement sur cette idée-là. Hein, c'est-à-dire, fondamentalement, à certains moments, on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel. Et comment l'image, ben, ça peut être quelque chose autour duquel on se structure. La communauté, ça tient. Hein, ça fait 6 mois. Moi, j'avais une de mes idées que j'avais appelée l'éthique de l'esthétique, c'était à Durand que je la devais. Hein, ethos, le ciment, à partir du fait d'éprouver ensemble des émotions au travers du partage des images. Voilà un peu ce qu'est fondamentalement l'œuvre de Durand. Il se trouve, et c'est en ce sens que le fait qu'il n'y ait pas eu d'écho dans la presse est à relativiser, comme je vous le disais il y a un instant, il se trouve que cette idée-là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, les rébellions de l'image, même de la publicité, qui pour moi est une forme de mythologie, les videogames, enfin tout ce qui va mettre en scène cette image que l'on avait cassée. Voilà. Et donc, il a donné des éléments pour penser, je dirais, une kinophilie. Le fait que de plus en plus l'image va envahir pour le meilleur et pour le pire notre vie quotidienne, et il est important d'avoir des instruments pour le penser. Voilà ce qu'est l'œuvre de Durand, hein, qui de ce point de vue est reconnue internationalement, et soyons clairs quand même, qui est aussi appréciée même en France,
hein, bien sûr, oui.
Au-delà encore une fois,
bien sûr, oui.
Je vais le dire poliment, des médias, pas dire autre mot plus brutal.
Voilà, écoutez, pour les auditeurs, c'est un essai à lire de toute urgence et ce n'est pas un pamphlet, je le dis tout de suite, parce que vous dites que c'est un pamphlet, mais c'est, je pense que c'est pas un pamphlet, de façon, je dirais, Jean-François Kahn, qui a une tendance à tous les 3 mois à le faire, je suis contre la pensée unique, mais j'en fais partie, hein, c'est un peu sa marotte, mais c'est une véritable réflexion qui, à mon avis, fera date dans le monde des idées. Les nouveaux bien-pensants, Michel Maffesoli, Alain Stroll, et c'est aux éditions du moment. Écoutez, il nous reste quelques minutes, Pascal. Comme on avait prévu les coups de cœur, etc., on va peut-être juste donner le sommaire du nouveau numéro et d'éléments. On devait en parler, on va en parler très brièvement.
Eh bien, le numéro d'éléments est consacré à la démondialisation. Pour revenir sur des mots qu'on a utilisés pendant cette heure, on a parlé des régions, de la régionalisation. Il y a un grand entretien avec Jean-Louis Davant. Qui est un historien basque, et qui, bon, voilà,
on a étudié... faire grincer les dents, les Jacobins.
oui, mais que nous avons intitulé « Contre la religion de la langue unique ». Donc, il y a bien sûr, le dossier, lui, est consacré à la démondialisation, il a été réalisé par Alain de Benoît. Et donc, il est en kiosque en ce moment. Voilà.
Bon, ben, très bien. Autrement, il y avait plein de choses à dire. Vous avez aussi un article très élogieux, La nostalgie de la France, sur le dernier livre d'Alain Finkielkraut. Ce qui est rare dans l'élément, il faut quand même, et un très bon article de Christopher Gérard sur le Frédéric George Unger qui est sorti aux éditions Crisis. Exactement. Qui s'appelle Les Titans et les Dieux. Voilà, il nous reste quelques minutes encore. Tout ce que je peux vous dire. Ah, aussi, peut-être un livre que Michel Maffesoli avait eu la gentillesse de préfacer aux éditions Crisis, qui est Éloge du communautarisme, Aristote, Hegel, Marx, qui est du regretté philosophe italien Constanzo Preve. Livre qui nous avait dit, mais comment vous pouvez en faire l'éloge du communautarisme? Même moi, j'étais un peu sceptique, et j'avoue qu'il a effectivement, il rejoint un peu ce qu'on disait avec Michel Maffesoli, c'est-à-dire le communautarisme, et surtout chez les Italiens, c'est vraiment cette entraide de communauté, ce qui n'a strictement rien à voir avec. J'ai presque l'impression que le mot est mal choisi pour à ce niveau-là.
Bien sûr.
Bien sûr, c'est un système politique, le communautarisme. Ouais. C'est le système qui donne des droits politiques en fonction de la communauté de naissance. C'est le communautarisme. C'est un système politique qui donne des droits aux personnes, aux individus, en fonction de leur communauté d'appartenance. Ça n'est pas ça du tout dont on parle dans le retour de l'idéal communautaire.
Vous voyez, puis-je dire juste
une
précision sémantique. moi j'avais fait une inversion au début de ma carrière. Durkheim parle de la solidarité organique, solidarité mécanique. Et il considérait que les sociétés primitives étaient associées à la solidarité mécanique et que nous rentrions dans la solidarité organique. Moi j'avais inversé les termes de Durkheim en montrant que de fait dans les sociétés primitives, il y avait ce qu'on appelle sociétés primitives, il y avait ces solidarités organiques de base. Et que la modernité c'était la solidarité mécanique, c'est-à-dire la verticalité de l'État, l'État-providence, etc. Et dans le fond, ce qui est en train de se passer actuellement, ben, c'est que cette solidarité mécanique de l'État moderne se sature et on voit revenir précisément la solidarité organique des communautés. C'est ça, les communautés. Donc, nous étions habitués à la flèche du temps progressiste ou le cercle réactionnaire, égale Nietzsche. Moi, ma proposition, c'est la spirale. Hein, c'est-à-dire voir revenir un certain nombre de choses, pas exactement au même niveau, la tribu et Internet, la communauté et Internet. Voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement.
Et même, ouais, voilà. le localisme et Internet. Mmh. C'est-à-dire le localisme et l'échange international.
Je pense qu'il y aurait une émission entière à réexpliquer tout ça.
On la fera.
Je souhaite une bonne soirée à tout le monde et on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle chronique de la Vieille Europe. Et pour l'instant, ben, restez sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle in 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I'll never make that money back.